Salutations à tous mes frères et sœurs dispersés à travers le monde. On bénéficie encore une fois d'un nouveau sabbat. C'est difficile de croire que une semaine s'est écoulée et que nous avons encore droit aux bénédictions de Dieu. Surtout en prenant en compte la décadence morale du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voudrait contempler encore une fois une expérience qui nous concerne en ces derniers jours. Ça fait partie de l'expérience de la foi. Mais dans l'expérience de la foi, il y a des choses que, aujourd'hui, le christianisme moderne, il ne s'attend pas à ce que certaines choses leur arrivent, et donc quand elles leur arrivent, ils estiment qu'il leur faut tourner le dos à ces expériences qui leur semblent anormales. Et c'est pour ça que, depuis quelques sabbats déjà, nous avons commencé à étudier et contempler certaines expériences qui nous semblent non seulement étranges, mais anathèmes à notre esprit pas tout à fait renouvelé. Et ça nous amène directement à un aspect de l'expérience du chrétien sur lequel on veut s'attarder pour commencer, pour pouvoir établir un fondement correct en accord avec ce que nous dit la parole de Dieu concernant ce que doit être, à quoi ressemble, quelles sont les caractéristiques d'une conversion. Parce que si nous allons un peu plus loin, avant même d'établir la définition biblique de ce qu'est la conversion, alors nous sommes en train de vouloir mettre des briques là où aucun fondement n'a déjà été posé pour pouvoir soutenir ces briques et pour qu'elles ne glissent pas par les eaux ou qu'elles ne se fassent pas abattre par les vents. Donc ce qu'on veut déjà, pour commencer, évaluer, c'est le processus de notre conversion. Le processus de notre conversion. Et ne serait-ce que réfléchissant à ces paroles, c'est un peu des paroles étranges aujourd'hui pour le christianisme en général, un processus. Mais non, on est converti et puis c'est bon, on est sauvé. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut écouter et étudier ce que Dieu dit lui-même vis-à-vis de cela. Nous allons pour cela dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1. Et là, l'apôtre nous donne des éléments par lesquels nous pouvons identifier ce qu'est réellement la conversion. Nous lisons dès maintenant. Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de la grande charité dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc l'apôtre retrace ici pour nous le processus par lequel nous sommes amenés à la conversion. Ici, il dit « nous, vous ». Parce qu'il sait que pour lui, c'est une expérience véritable, et il sait que pour ceux auxquels il s'adresse, cela a aussi été une expérience véritable, au moins à un moment donné de leur vie. Et en s'adressant ainsi, il dit que, avant tout, pour commencer, il y avait la mort dans nos fautes et dans nos péchés, que nous marchions selon le train de ce monde, selon l'inspiration du prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion, et que parmi ces gens-là, nous vivions tous, alors il donne une liste, nous vivions tous selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair, de cette chair, et de nos pensées, il faut bien noter cela, désir de la chair et de nos pensées, nous accomplissions cela, et donc nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. C'est de là que nous venons. Si nous sommes convertis, nous sommes venus de cela. Et si nous voulons être convertis, continuer dans ce processus de la conversion, il nous faut à tous les tournants vérifier que cela est bien derrière nous, que nous n'accomplissons pas les désirs de la chair et de nos pensées. Mais nous allons étudier cela davantage parce qu'il y a une différence qui s'introduit, qui est introduite dans notre vie quand nous expérimentons, nous vivons ce qui est écrit au verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts comme ça dans nos fautes, il nous a rendus à la vie en Christ. Et ça n'arrive pas par magie parce que il place devant nos yeux son amour en Christ. Et c'est cet amour qui nous rend à la vie et qui nous ressuscite spirituellement, parce qu'il dit, il nous a ressuscité ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il parle à des gens qui vivent sur la terre, donc il s'agit d'une réalité spirituelle. Et alors que nous étions morts dans nos fautes, il nous a ressuscité de cette mort spirituelle et nous a rendus à la vie en Christ par la méditation et la révélation à nous-mêmes de cet amour dont il nous a aimés et dont il nous aime constamment. Et donc, il précise au verset 8 que C'est pour ça qu'on peut dire que vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Parce que Dieu nous fait un don, c'est le don de son Fils. Et en mettant notre foi en cela, de tout notre cœur, parce qu'il est écrit dans l'Ancien Testament que quand nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il se fera trouver de nous. Et donc quand nous le trouvons ainsi, parce que notre cœur se donne à lui, parce que nous voyons ce sacrifice qu'il fait, alors il crée quelque chose en nous, et c'est l'objet de notre contemplation maintenant. Il crée quelque chose en nous. Au début, nous venons et nous marchons selon le train de ce monde, comme tout le monde. Nous sommes inspirés par le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit dans les personnes du monde, et en vivant selon les convoitises de notre chair, nous accomplissons les désirs de la chair, et pas seulement, les désirs de nos pensées. Donc notre chair et nos pensées sont complètement en harmonie l'un avec l'autre, et ils travaillent de concord pour pécher, pour le péché. Il n'y a rien d'autre dans notre vie avant la conversion, si ce n'est le péché et une vie qui est selon les convoitises de la chair. Et la pensée marche constamment en harmonie avec les désirs de la chair, et il n'y a donc aucune contradiction. Et si tout de suite vous réalisez, nous réalisons que ceci, malgré que nous sommes chrétiens, est encore notre expérience, alors cela veut dire que nous ne sommes pas passés par le processus de la conversion. S'il n'y a pas une contradiction constante, comme nous allons le voir très bientôt, au sein de notre être, mais que nous avons notre pensée qui vogue selon les convoitises de la chair, et que notre chair donne des propositions et que notre pensée est d'accord constamment, cela veut dire que nous sommes encore morts dans nos fautes et dans nos péchés. C'est la réalité que l'Évangile nous révèle à travers l'apôtre Paul. Et donc, nous continuons tout de suite en allant dans Romains chapitre 12, au verset 1, à partir du verset 1, et nous voyons que l'apôtre demande à ceux qui se sont fait disciples de Jésus-Christ de faire quelque chose. Nous sommes sauvés par la foi, mais la foi se révèle par les œuvres, et parmi ces œuvres, il est une activité spirituelle à laquelle il nous invite à nous engager, et elle nous est définie ici dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1, nous lisons. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Et qu'est-ce qui fait partie de ce culte raisonnable ? Il dit au verset 2, « Et ne vous conformez point au présent siècle ou au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. » C'est ici un élément intéressant et important. Il dit aux frères, aux ceux qui croient au sacrifice de Jésus-Christ en leur faveur, il leur dit, par les compassions de Dieu, il leur rappelle, c'est cela qui vous a fait venir à l'Évangile, et c'est par cela que je vous exhorte de vous offrir désormais vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est votre culte raisonnable. Et pourquoi c'est raisonnable ? Parce que Ce sacrifice a déjà été fait en notre faveur. Et maintenant, l'apôtre dit que nous devons faire également un sacrifice. Jésus s'est sacrifié pour nous et maintenant, il nous dit, l'apôtre nous dit que c'est bel et bien raisonnable que vous aussi, vous vous offriez en sacrifice vivant, agréable à Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'un sacrifice agréable ? Pourquoi vivant et pourquoi est agréable ? Tout simplement parce que dans l'Ancien Testament, lorsqu'un holocauste était placé sur l'autel et sacrifié, un animal était placé sur l'autel et sacrifié en holocauste, l'animal était vivant d'une part. Et qu'est-ce qu'il était en quoi était-il agréable ? Il était sans faute. Ce devait être un agneau ou une brebis ou un bouc qui était sans faute. On ne devait pas amener un animal qui faisait partie de ceux dont on se serait bien débarrassé de toute manière. Non, un animal sans faute, le meilleur, celui qu'on aurait voulu garder. Et l'apôtre maintenant fait cette comparaison à la fois avec le sacrifice de Christ et avec les sacrifices du service du sanctuaire. Et il dit, maintenant, vous avez vu le sacrifice que Dieu a fait pour vous, maintenant, offrez-vous vous-même comme une holocauste. Un sacrifice vivant, agréable à Dieu, c'est bel et bien raisonnable. Et il dit que ce sacrifice raisonnable, cela équivaut à ne pas se conformer au monde, mais être transformé par le renouvellement de notre esprit. Pourquoi ? Parce que c'est seulement comme ça que l'on peut comprendre et prouver que la volonté de Dieu est bel et bien bonne, agréable et parfaite. Donc, la conversion, celle à laquelle l'apôtre attire l'attention des croyants, c'est une conversion qui doit se répéter. Et cette conversion qui doit se répéter et qui doit être celle du début ainsi que celle du milieu et de la fin est une conversion où nous ne nous conformons point au monde, mais il y a un renouvellement de notre esprit. Si vous vous souvenez ce qu'on vient de lire dans Éphésiens chapitre 2, nous avions une définition de ce que nous étions au début et on nous a dit là que nous accomplissions les désirs de la chair et de la pensée. Mais quand Dieu touche nos cœurs par sa compassion, par son amour qu'il nous révèle en Christ, il y a un renouvellement de notre pensée. Dieu met un nouvel esprit. Il prend de notre corps, le cœur de pierre, il y introduit un cœur de chair pour que nous puissions ressentir nos misères. Et qu'en ressentant nos misères, nous nous humilions devant Dieu, que nous nous soumettions à lui et que ainsi, avec cette vision du calvaire, de la croix et de Gethsémané et de toutes les souffrances qu'a endurées Christ pour nous, une transformation puisse s'opérer à l'intérieur de nous, dans notre esprit, et que nous puissions maintenant discerner quelle est cette volonté de Dieu qui a amené Jésus à souffrir de telles souffrances pour nous et à voir par ce renouvellement de notre esprit, cette transformation, que c'est bel et bien, c'est juste que nous aussi, maintenant, nous nous offrions en sacrifice vivant. Donc voilà, nous avons commencé et nous voyons par ces simples quelques versets qu'il y a bel et bien un processus qui est placé devant nos yeux dans sa parole. C'est un processus auquel dans lequel nous devons nous engager constamment, de manière répétée. Mais maintenant qu'il y a ce nouvel esprit, ce nouvel homme, ce nouveau cœur en nous, il y a quelque chose de très intéressant. Et c'est vraiment l'objet principal de notre étude, parce que nous vivons dans les derniers temps. Dans le livre de Daniel, au chapitre 12, il nous est clairement expliqué qu'au verset 4 et au verset 9, je crois, que à la fin des temps, et nous savons par la compréhension des périodes prophétiques, qu'à la fin des temps, à partir de 1798, ce serait le début de la fin des temps, et qu'à partir de ce moment-là, il y aurait un accroissement des épreuves qu'endurerait le peuple de Dieu. Plusieurs seraient éprouvés. Nous allons le lire juste en passant, parce que c'est très intéressant et c'est important que nous puissions nous situer dans l'histoire et dans la prophétie et réaliser à quel point c'est important pour nous de comprendre que nous faisons partie de ces gens qui sont décrits ici dans Daniel chapitre 12 verset 10 et que nous puissions prendre courage à l'idée que notre expérience est vérifiée par la parole. Dans Daniel chapitre 12 et verset 9, après avoir montré à Daniel toutes ces choses, et après lui avoir révélé les choses qui arriveraient jusqu'au verset 45 du chapitre 11, qui marquerait la fin du temps de grâce, maintenant au chapitre 12, il dit au verset 9, « Va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. » Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants agiront avec méchanceté et aucun des méchants ne comprendra. Mais les intelligents comprendront. Est-ce que vous voyez un lien tout de suite avec ce que nous avons lu dans Romains chapitre 12? Qui sont ces intelligents? C'est ceux qui ont le renouvellement de leur intelligence. Et d'ailleurs, dans la version anglaise, c'est « mais les sages comprendront ». Les sages, ils sont sages, mais leur sagesse ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas leur sagesse charnelle. C'est une sagesse qui vient parce qu'ils ont été régénérés en leur cœur, à l'intérieur de leur être, par la contemplation de l'amour de Dieu et qu'ils ont une nouvelle création. Ils sont maintenant une nouvelle création, une nouvelle créature en Christ. Et s'ils persévèrent dans cette expérience, ils sont assis dans les lieux célestes en Christ. Et eux, ces gens-là, seront purifiés, blanchis et éprouvés. C'est un processus. Et ici, ce n'est pas simplement le processus de la conversion, mais il s'agit du processus de la purification. Parce qu'il faut être renouvelé pour pouvoir comprendre cette expérience. Et cette expérience appartient à ceux qui ont un esprit renouvelé et qui subissent, pour ainsi dire, le renouvellement de leur esprit de jour en jour. Ils le subissent parce que c'est une épreuve. C'est un bien qui leur arrive, mais c'est un bien qui vient par la souffrance. Ils sont purifiés et blanchis. Et donc, maintenant nous continuons. Et dans cette expérience de purification, nous réalisons qu'il y a quelque chose d'important. Dans Romains chapitre 7, au verset 18, l'apôtre Paul nous parle de quelque chose d'extrêmement important. Dans Romains chapitre 7, il nous refait passer par cette expérience de la conversion, et après, vous allez voir que il nous trace quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre. Dans Romains chapitre 7, nous lisons au verset 9. Là, c'est Paul qui parle ici. Et c'est très intéressant parce que lui, il était pharisien, mais il arrive quand même à dire le suivant. Mais vous allez comprendre très vite. Pour moi, autrefois, sans loi, je vivais. Ben, il connaissait la loi, les 10 commandements, et pourtant il peut dire qu'il était sans loi. Donc c'est quelque chose de très intéressant et très important à considérer si nous sommes adventistes du septième jour. Est-ce possible que nous connaissions la loi, mais que nous soyons sans loi? Vous voyez que la parole a besoin, nécessite d'être considérée attentivement. Il dit, pour moi, autrefois sans loi, je vivais. Il avait l'impression de vivre. C'est magnifique cette vie. C'est magnifique. Je suis un pharisien. Je connais toutes les lois. Les gens me respectent. J'ai plein d'amis. Je persécute ces gens qui se disent chrétiens. La vie est belle. Je vivais. Mais le commandement étant venu, le péché a repris vie. Quelque chose est venu. Le commandement, il l'avait lu, il le connaissait. Mais le commandement est venu. Le véritable commandement, la nature du caractère de Dieu dans le commandement, la nature odieuse de sa condition de pécheur est venue et le péché en lui a repris vie. Le péché avant, c'était tout ce qu'il connaissait. Donc, il n'avait pas vraiment de problème avec le péché. C'était un homme légaliste, mais pour lui, le péché n'avait pas d'emprise sur sa vie. Donc, pour lui, le péché était comme inexistant. Mais là, il arrive, le commandement vient, la puissance de la sainteté de Dieu arrive, lui frappe les yeux, et le péché reprend la vie en lui. Il continue. Et moi, je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui me donnait la vie m'a donné la mort. Car le péché, prenant occasion du commandement, m'a séduit et par lui m'a fait mourir. Voilà, le commandement est arrivé et je croyais le connaître, mais maintenant je le connais véritablement et je suis tenté de faire exactement l'opposé de ce que le commandement vient de me dire de ne pas faire. De faire exactement l'opposé de ce que le commandement vient de me dire de faire. Plutôt. Et donc il continue, verset 12, « Ainsi la loi est sainte et le commandement est saint. Juste et bon. Ce qui est bon m'a-t-il donc donné la mort? Nullement, mais c'est le péché. afin qu'il parût péché en me donnant la mort par une chose bonne et que le péché devint excessivement pécheur par le commandement. C'est maintenant l'expérience, la lutte intérieure de l'homme converti. C'est très important que l'on évalue clairement ce que la parole de Dieu nous dit en parallèle avec l'expérience que nous faisons au jour d'aujourd'hui. Verset 14, il dit « En effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi là, je suis charnel, vendu au péché. » Il découvre quelque chose avec cette apparition de la réelle signification du commandement. Il découvre quelque chose qui lui fait exclamer qu'il est vendu au péché. Il est un véritable esclave. C'est exactement comme Jésus l'a dit, celui qui commet le péché est esclave du péché. Et l'apôtre Paul en faisait la réalisation. Il n'avait pas entendu de ses propres oreilles ces paroles de Jésus-Christ, mais il en faisait maintenant la réalisation dans sa propre expérience. Il continue, c'est important que l'on apprécie vraiment ce dont il veut nous parler. Car je n'approuve point, verset 15, ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le péché qui habite en moi. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne seraient pas très contents de lire comme c'est écrit. Le péché habite en moi et il me plonge dans de tels abîmes. Non. Moi, je suis ressuscité en Christ et je n'ai plus le péché qui me tente. Ah ! Et donc, nous voyons que l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous révèle, nous présente ici une expérience qui est complètement différente de celle qui est aujourd'hui présentée aux auditeurs de la parole de Dieu dans quelque église qu'il se trouve. Il dit que c'est le péché qui habite en lui qui le pousse à faire ces choses. Mais pourtant, par son esprit, son entendement, son intelligence, il reconnaît que la loi est bonne. Donc il y a un conflit. Donc cet homme dont il parle ici est un homme différent de celui qui nous était présenté au début de Éphésiens chapitre 2. Cet homme-là que l'apôtre Paul nous présente ici au verset 17 et un peu avant, c'est un homme différent de celui qui accomplissait les désirs de la chair et les désirs de ses pensées. Ici, les désirs de la pensée sont différents, mais les désirs de la chair sont maintenant contraires aux désirs de la pensée. Dieu a placé dans l'homme converti, qui est ici Paul, un nouvel esprit. Vous vous souvenez que Christ s'est présenté, s'est révélé à Saul, qui est plus tard devenu Paul. Il s'est révélé sur le chemin de Damas à Saul et il s'est montré à lui et lui a dit « Tu me persécutes, Saul ? Qu'est-ce que tu fais là ?» En d'autres termes, tu n'es pas converti, Saul. Tu n'es pas converti. Et maintenant, on saute toute cette expérience et on arrive à Romains chapitre 7 et l'expérience est toute complètement différente. Et maintenant, on continue au verset 18. Au verset 18, il dit « Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » Ah, le bien n'habite point en lui, mais où ? Le bien n'habite point en lui, dans sa chair. Parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Ah, mais la volonté, il a donc une volonté à faire le bien. C'est ici son esprit renouvelé, son nouvel homme. Cette nouvelle créature, elle désire faire le bien, mais les désirs de la chair lui font la guerre. Les désirs de la chair font la guerre à l'homme converti. Il crée en son être une lutte intérieure constante. C'est l'expérience de l'homme converti. Il continue, verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi en moi. C'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Et après, verset 22, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. » Voilà, c'est cette lutte. Cette lutte qui est une partie intégrante de la purification à laquelle sont assujettis le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, en ces derniers jours, au temps de la fin, en cette période où plusieurs seront blanchis et éprouvés. Et où seuls eux-là, eux qui sont renouvelés dans leur esprit, où seuls ceux qui sont intelligents comprendront ce qui leur arrive. Cela veut dire que si vous êtes dans une communauté religieuse, il se peut que d'autres ne seront pas à même de comprendre l'expérience que vous traversez, car ils ne sont pas eux-mêmes convertis. Il se peut qu'ils l'aient été un jour. Il se peut qu'ils aient traversé cette expérience, mais qu'elle soit maintenant derrière eux. Mais pour nous, si nous tremblons à sa parole, à la parole de Dieu, alors nous voulons tendre l'oreille et écouter le Seigneur nous donner davantage de direction, d'enseignement, et notamment de leçons à la vue des expériences de ceux qui ont été avant nous. Et pour cela, on voudrait s'attarder sur l'expérience d'Abraham. La Bible nous dit que Abraham nous a été donné comme le père des fidèles. Alors, le père de ceux qui ont la foi. Mais pour avoir une telle foi, il lui a fallu lui aussi passer par des expériences qui ont éprouvé son être jusque dans les plus bas tréfonds de son âme, jusque dans les profondeurs de son être intérieur. Sa foi, ce n'était pas dans un claquement de doigts. La foi d'Abraham lui a coûté quelque chose. Et d'ailleurs, pour suivre son exemple et faire partie des fidèles, cela coûte quelque chose. Et c'est maintenant cela que l'on veut examiner. On va tout de suite dans Genèse, chapitre 15. Le livre de Genèse, Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6. Ici, Dieu s'est révélé à Abraham. Abraham, il était sorti de son pays d'origine par la foi. Il l'avait quitté et maintenant, il se retrouve dans une situation où il n'a pas d'enfant. Sa femme, c'est Sarai. Il n'a pas d'enfant d'elle et son serviteur sera la seule possibilité d'un héritier. Et on lit dans Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. Ou plutôt, verset 3. Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et voilà qu'un serviteur né dans ma maison sera mon héritier. » Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en disant, « Celui-ci ne sera point ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. » Puis Dieu le mena dehors et lui dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et lui dit, « Ainsi sera ta postérité. » Donc c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham, que de ses propres entrailles sortirait un enfant qui serait son héritier et que son serviteur ne serait pas son héritier. Et donc on lit au verset 6, « Et Abraham crut à l'Éternel qui lui imputa cela à justice. » Il a cru, il a fait preuve de foi. Il ne voyait pas que la promesse pourrait s'accomplir, mais il a pris la parole de Dieu et a cru en cette parole. Et cela lui fut imputé à justice, cela fut sa justification. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que, au chapitre 16, versets 1 à 3, il y a quelque chose d'autre qui se présente à nos yeux. Et c'est un exemple des égarements de la chair chez l'homme converti. Un exemple de ce que la chair peut nous mener à faire, même lorsque nous sommes convertis. Nous lisons. Or, verset 1, Or Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je des enfants par elle. Et Abraham obéit à la voix de Saraï. Et on connaît la suite. Abraham a pris Agar pour concubine et il a eu un enfant d'elle qui s'appelle Ismaël. Donc Dieu avait promis à Abraham de lui donner un héritier qui sortirait de ses entrailles. Et donc peut-être à un certain moment, Abraham s'est dit, bon, ça sera de mes entrailles avec une autre femme. Et il s'est dit, bon, peut-être que c'est ça que Dieu voulait dire. L'apôtre Paul nous disait qu'il y avait quelque chose en lui, la loi de ses membres, sa chair, qui le menait à faire des choses qui n'étaient pas la volonté de Dieu. Et ici, dans l'expérience d'Abraham, nous avons une illustration de ça. Abraham a suivi les suggestions à la fois de sa femme et de sa chair. Son esprit était renouvelé, mais sa chair lui a suggéré, peut-être ses passions, ses désirs d'avoir un héritier, lui a suggéré un chemin qui n'était pas le chemin sur lequel Dieu l'avait appelé et invité. C'était le chemin, un travers de la chair. Dans Jérémie chapitre 17, Jérémie chapitre 17 au verset 9, nous avons quelque chose qui nous dit clairement que notre cœur, on ne peut pas se fier à notre cœur, à notre propre cœur, notre intelligence qui n'est pas renouvelée, notre vieil homme. Il est écrit, Jérémie chapitre 17, verset 9, « Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin qui le connaîtra. » Par-dessus tout. Par-dessus tout. Le cœur est tellement malin que Dieu nous dit qui le connaîtra. Qui est-ce qui pourra vraiment comprendre à quel point son cœur est trompeur? Et donc, comme on l'a vu, Abraham nous a donné une illustration dans son entre guillemets mariage avec Agar, une illustration de ce vers quoi nous pouvons être menés, ce vers quoi ce que nous pourrions être enclins à faire si nous ne discernons pas la différence entre la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite et ce qui fait partie des désirs de la chair. Vous allez me dire, mais en quoi Abraham qui prend Agar, c'est le désir de la chair? Ben c'est simple, c'est très simple. Abraham veut avoir un héritier. Ça fait partie d'une passion, d'un désir à l'intérieur de l'homme. Et si ce désir est bien conduit, il mène au bien. Dieu a créé Adam et Ève et il leur a dit de se multiplier. Donc Dieu a créé ce désir originel à l'intérieur de l'homme d'avoir à la fois une femme et d'avoir une postérité. C'est créé en l'homme, c'est bâti, conçu à l'intérieur de son génome. C'est là, à l'intérieur de sa chair. Et précisons que ce n'est pas un mal en soi, mais vu que nous sommes des êtres déchus, ce désir peut être détourné par Satan, par l'ennemi de l'âme, pour nous faire passer dans des chemins, des sentiers interdits. Assurément, dans l'expérience d'Abraham, l'épreuve pour pouvoir avoir ce discernement était probablement agonisante. Ou si elle n'était pas agonisante, c'était un terrain trop trouble pour pouvoir voir clairement la distinction entre la volonté de Dieu et les désirs de la chair. Et maintenant, on veut continuer dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, du verset 1 à 4 pour commencer. Nous lisons. Puis Abraham, étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai très abondamment. » Alors Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla et lui dit « Pour moi, voici, mon alliance est avec toi et tu deviendras père d'une multitude de nations. » Maintenant versets 15 à 19. Dieu dit à Abraham « Quant à Saraï, ta femme, tu ne la appellera plus Saraï, mais Sarah est son nom. Et je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Alors Abraham tomba sur sa face, et il rit, et dit en son cœur, « Naîtra-t-il un enfant à un homme âgé de 100 ans ?» Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle ? Et Abraham dit à Dieu, « Puisse Ismaël vivre devant toi ?» Nous avons là un retournement de raisonnement dans l'esprit d'Abraham. Parce que ce que nous avons lu dans le chapitre 15, c'est que quand Dieu avait promis à Abraham que sa postérité serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel, Abraham avait cru à Dieu. Il avait cru. Mais maintenant qu'il avait eu un fils de la chair par Agar, la servante égyptienne, la promesse de Dieu n'était plus aussi savoureuse. Il se disait, mais c'est bon, j'ai accompli, elle est accomplie, Ismaël, puisse-t-il vivre devant toi, l'enfant de la postérité ? La chair parle. Les désirs de la chair sont actifs. Examinons, frères et sœurs, examinons ce que ça veut dire dans nos vies personnelles. Puisse Ismaël vivre devant toi. Il est là. C'est bon. C'est bon. Parce que Dieu lui disait, Sarah, Sarah, c'est à elle que je vais donner un enfant. C'est ça que je voulais dire dès le début. Mais tu t'es laissé embrouiller avec toute cette histoire de Agar, là. Et vous voyez, est-ce possible? On veut retirer des leçons de ça. C'est pas juste pour pointer le doigt et dire « Ah, oh, Abraham, oh, Sarah, et... les losers, quoi. » Non. Il s'agit de voir où nous avons trépassé, où nous manquons encore peut-être d'une foi implicite aux promesses de Dieu. En l'occurrence, Dieu a promis à Abraham une postérité, un enfant. Pour un homme, d'avoir un enfant, c'est une bénédiction, pour une femme aussi. La femme a au-dedans d'elle un désir de porter un enfant en son sein. Et l'homme a un désir de pouvoir regarder la face de sa postérité et de savoir, d'avoir la satisfaction. Mais Dieu ne nous promet pas à tous une femme ou un enfant. C'est important que nous ne faisions pas des parallèles que Dieu ne fait pas pour nous, mais que nous prenions la leçon que Dieu désire nous donner. Vous voyez, aujourd'hui, dans le monde chrétien, c'est une maladie, ça. Nous prenons la parole de Dieu et nous nous approprions des promesses que Dieu a désiré laisser aux hommes du passé et nous passons à côté des promesses que Dieu donne à nous en ces derniers jours. C'est maladif. Parce que les promesses qui ont été faites dans certaines circonstances, notamment comme par exemple à Abraham d'avoir un enfant ou à Isaac d'avoir une femme, toutes ces choses-là, c'était bien dans leurs circonstances, ça les concernait. Et donc, on se dit, « Ah, mais c'est merveilleux, moi aussi je veux ça. » Mais ce n'est pas ça la leçon. Ce n'est pas cela la leçon. La leçon, c'est écrit dans Hébreux chapitre 11. C'est tout, tout est là. Tout est là. C'est cela la leçon. Pas, est-ce que je vais avoir une postérité? Est-ce que je vais avoir des biens? Est-ce que Dieu va bénir mon compte bancaire? Il ne s'agit pas de cela. C'est la chair qui veut faire de ses promesses un bien charnel. La chair veut cela. Et l'ennemi ne fait que pointer, piquer la chair pour la guider dans une certaine direction. Il ne peut pas lire nos pensées, mais il a une expérience si accrue des tentations de l'homme et des raisonnements de l'homme charnel et pécheur et déchu qu'il n'a pas besoin de lire. Il dirige les passions du cœur dans la direction qui sera la plus dangereuse pour l'âme. Considérons, frères et sœurs, quels sont vers où montent nos affections, où vers où descendent-elles? Nos affections sont-elles dans les lieux célestes? Ou à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, essayons-nous d'en retirer une promesse de réussite charnelle? Dieu est un esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. pas seulement en esprit, mais en vérité. Pour savoir ce que Dieu veut dire, il faut que j'examine ici et là, un peu ici, un peu là. C'est comme cela que nous lisons sa parole. Pas une fois je lis un verset et je dis « Ah ben c'est ça que Dieu veut dire » et donc je ferme et puis j'ai ma promesse. Non, 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 non. Dieu est un esprit intelligent et pour le comprendre et comprendre ce qu'il veut dire, il nous faut avoir une intelligence. Daniel nous disait que, non, Dieu disait à Daniel dans chapitre 12, verset 10, que les sages, les intelligents comprendront. Mais si nous n'avons pas ce renouvellement de l'intelligence, nous ne comprendrons pas. Donc il nous faut nous assurer que nous sommes passés par cette expérience de Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 8. Sommes-nous passés par cela? Passons-nous par cela de jour en jour? L'apôtre Paul disait « Je meurs chaque jour ». C'était son expérience, mais il faut que ça soit la nôtre. On ne peut pas juste lire Galates chapitre 2, verset 20 et dire « Ah oui, moi aussi je suis crucifié en Christ ». Mais comment pouvait-il dire ça? En ayant traversé ce qui est écrit dans Romains chapitre 7, versets 24 à 25. C'est ça. Pour pouvoir dire « Je suis crucifié en Christ », que doit-il nous arriver? Ce qui est écrit ici, Romains chapitre 7, versets 24 à 25. « En ayant vu ce conflit entre sa chair, son corps humain tout entier, même son cerveau charnel, parce qu'il y a une partie charnelle dans le cerveau, la partie animale de son cerveau, en voyant ce conflit, entre sa conscience, qui est renouvelée par l'Esprit de Dieu, et sa chair, il s'exclame, « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort ?» Quelle est la réponse? Quelle est la réponse que Dieu lui a donnée dans son expérience en tant que ministre de Dieu et sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu? Il dit « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Je suis donc assujetti moi-même par l'Esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. Et quelle est la délivrance? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et quel est mon échappatoire, Seigneur? Il dit, moi, je suis ton échappatoire. Allons là, revenons dans Genèse chapitre 15. Par quoi est-ce que Dieu avait commencé toutes ces promesses? On se souvient des promesses, des autres promesses, mais par quoi? Qu'avait-il promis au début à Abraham? Il n'avait dit, « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est lui, il est ma très grande récompense. Et donc, je fixe toute l'affection qui existe en mon corps, en mon âme, je la fixe sur lui. Dans cette expérience, je rends grâce à Dieu qui me délivre de cet assujettissement à ma chair et je m'assois dans les lieux célestes en Christ. C'est la conversion. C'est la conversion et c'est la purification et c'est la victoire. Mais si nous l'avons à un instant, il faut continuer. L'apôtre Paul disait, je meurs chaque jour. Si je suis mort hier, mais pas aujourd'hui, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur, ça ne servira à rien. C'est passé. C'est passé. Maintenant, aujourd'hui, je meurs chaque jour et je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je loue le Seigneur, frères et sœurs, qui nous a donné de telles réponses vivantes dans sa parole. Nous ne sommes pas destinés à faillir chaque fois, mais nous pouvons avoir une expérience différente. Elle nous est promise. Il a dit, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Ma vie est versée pour toi. Que veux-tu de plus ? Et là, comme Abraham, Dieu dirige nos regards vers le ciel et il dit, quand bien même tes péchés sont nombreux comme les étoiles, je les effacerai comme une nuée épaisse. Ils sont lavés dans le sang, ils ne reviennent plus, je ne m'en souviens plus, et toi ne vas plus les rechercher. Et ils seront effacés à jamais du sanctuaire céleste. Quelle promesse ! Donc maintenant, on voit quelle est la signification pour nous de la promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est une promesse spirituelle pour un renouvellement spirituel, pour une victoire spirituelle et pour une éternité avec Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a rendu tout cela possible et qui s'assoit à côté de moi dans les lieux célestes. Je m'assois à côté de lui dans les lieux célestes. Il soupe avec moi les souffrances et je soupe avec lui ses souffrances et nous partageons la coupe. Et je trouve auprès de lui la consolation. La consolation. Dans notre prochaine étude, on examinera qu'est-ce que c'est que Abraham a dû traverser à cause de cette faute qu'il a commise en essayant d'accomplir la promesse par ses propres actions. Et en attendant, je vous souhaite à tous d'être richement bénis dans la souvenance de ce que nous avons médité aujourd'hui dans la parole. Amen.